y est, j'ai fait les soldes. Super. J'ai acheté une paire de Ray-Ban, une Rolex et une langue de bois. Ça s'appelle la panoplie du président. Ciao.
Oui, bonjour, ici Vincent Marronnier, comme on dirait au Groland. Alors, après les reportages sur les fèves pour la galette des rois, comme tous les ans, on a droit maintenant au grand reportage sur les soldes. En effet, Thérèse, je me trouve actuellement devant les grands magasins, il est 5h30. Depuis hier soir, une foule hystérique est venue avec des thermos et des duvets. C'est passionnant. Bientôt, on va avoir droit aussi encore au reportage sur les négociants de truffes avec leurs cochons et leurs chiens. Évidemment, le marchandage se fait sous le manteau. Pas question que celui d'à côté sache combien il a vendu. Tout le monde s'en fout complètement. Je suppose que vos gars, là, ils ont fait l'école de journalisme. C'est extraordinaire. L'an prochain, ça va aussi être un marronnier. L'an prochain, on va reparler du divorce de Sarkozy, etc. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'autres nouvelles que ça à nous donner, bah, mettez-nous de la pub. Au moins, voilà, ça nous occupera. Parce que là, franchement, vos reportages, ça devient terrible, terrible, terrible. Salut à tous.
Bonsoir à tous. Si vous avez envie de casser votre télé, si vous refusez d'acheter votre pinard chez Nicolas, si vous avez brûlé vos disques de Johnny, de Mireille Mathieu et de Bigard, si vous avez découpé en petits carrés Libération, Le Monde et Le Figaro pour les accrocher dans vos toilettes, si vous avez fini de lire Le Diplo et Le Plan B pour la 34e fois et que vous ne savez plus quoi faire, mercredi 9 janvier à partir de 20h, réunion du repère des amis de l'émission Là-bas si j'y suis, au restaurant Le Thon des Cerises à Tonquédec, route de Bullien. Ambiance garantie sympa, on peut boire un godet en toute tranquillité, l'absence des renseignements généraux n'est pas garantie, mais on est en principe entouré de visages pas trop hostiles. Donc on peut venir nombreux et décontractés. Tout renseignement au 02 96 46 48 63 ou au 06 85 93 88 66. Voilà, amitié à tous. Salut, c'est Ayane, au temps des cerises, à Tonquédec, dans le Trégor, Côte d'Armor. Allez, amitié à tous, salut et bonne année pour tous les AMG. Salut.
Et salut Daniel, et Pierre-Antoine Cannes. Ah dis donc, Sarko, il est devenu merméiste. C'est formidable, hein. Tu devais boire du petit lait pendant la conférence de presse. Il va supprimer la pub, peut-être à France Inter aussi. On parlait d'autoriser les pubs non génériques ou non plus ou moins génériques. Donc là, ça va être le contraire. Il fait la propagande pour Edgar Morin. Bah, il est peut-être confondu avec Christian Morin qui joue bien du pipeau. Mais enfin bon, quand même, a priori, c'est le bon. Les heures sup, il va les supprimer. Il n'y aura plus d'heures sup, puisqu'il n'y aura plus 35 heures. Donc toutes les heures seront des heures normales. Donc ben dis donc, ça c'est, tu vois, comme tu fais du bon lobbying, hein, mais Daniel, et ben finalement tu vois, ça marche à la fin, on arrive à un but quand même, on peut être fier, tous les auditeurs peuvent être fiers quand même, toute la famille là-bas si j'y suis, on peut tous être fiers. Allez, salut Daniel, hein, et continue encore, il y a encore du boulot, hein. Salut.
Alors il est pas bien notre président de la République, il veut supprimer la pub à la télé, il aurait pu vouloir supprimer là-bas si j'y suis, et ben non. C'est la pub qui s'attaque. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas M. Stiglitz, prix Nobel d'économie, 6 heures d'entretien sur les méfaits de la mondialisation pour 3,90€ sur Internet, c'est à ne pas manquer. Allez, courage, confiance, tant que là-bas, si j'y suis, est diffusé, tout espoir n'est pas perdu. Merci Daniel, salut à tous. Maurice Dulot.
Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. C'est nickel à l'appareil. Voilà, je voulais juste une précision. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a donc le président qui a dit que il n'y aura plus de pub sur France Inter, donc youpi. L'action de TF1 décolle, ça c'est génial parce que elle chutait depuis quelques temps, donc c'est vachement sympa pour TF1 et ses copains. Mais ce que j'ai pas bien compris et j'aimerais votre précision, c'est comment ça va se passer sur France Inter s'il n'y a plus de pub. Comment l'argent qui rentre avec les pubs, comment il va rentrer, et est-ce que l'idée c'est de faire rentrer plus d'argent avec la redevance, ou est-ce que l'idée c'est de dire il n'y a plus de pubs donc il y a moins d'argent, donc il y a moins de budget et donc bah on enlève quelques émissions quoi, et après à savoir lesquelles.
Bonjour, je voulais dire aux rares actionnaires de TFN et Merde numéro 6 qui écoutent là-bas que c'est le moment de vendre vos actions pendant l'euphorie. Car si vous attendez qu'il y ait 4 coupures de pub par heure dans vos chaînes comme en Amérique, il y aura du zapping dans l'air et par conséquent une baisse. Allez, 12% de bénéfices, vous aurez jamais mieux. Vendez, je vous le dis, maintenant! Vite, avant qu'il soit trop tard!
Eh ben, ça vous préoccupe, hein? Et nous aussi, d'ailleurs, cette histoire de suppression de la pub dans l'audiovisuel public, ben, c'est une bonne nouvelle, quand même. C'est une bonne nouvelle. Mais pour qui? Eh bien, bien sûr, c'est d'abord une excellente nouvelle pour les amis de notre président, notamment l'ami Bouygues, qui se réjouit. On sait comment, immédiatement, la valeur boursière de Bouygues et de TF1 et d'M6 ont grimpé considérablement, même si c'est retombé aujourd'hui. Là, il y a quand même une poussée tout à fait fructueuse. Alors, effectivement, bonne nouvelle. Mais est-ce aussi une bonne nouvelle pour les téléspectateurs? Sans doute. Plus, moins de pubs, c'est moins d'imbécilité, c'est évident. Mais, c'est à condition que le manque à gagner par l'audiovisuel public soit compensé et financé, comme l'a indiqué notre président de notre République, ce dont certains doutent. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui doutent déjà de la parole de l'homme qui dirige notre pays. Ils ont peut-être certaines raisons et on va peut-être en trouver la source aujourd'hui. On va revenir sur la privatisation de TF1. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on était revenu sur cette date. Et bien, on va y revenir à nouveau aujourd'hui, parce que s'il y a un moment où nous autres hexagonaux avons été roulés, et comment, dans la farine, c'est bien à ce moment-là. Il y en a eu bien d'autres, bien évidemment, enfin, celui-là quand même a été assez gratiné. Qui se souvient de l'expression « mieux-disant culturel » ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le « mieux-disant culturel » ? Eh bien, à l'époque, c'était une expression qui était absolument partout et qui est resté comme le symbole de cette rouerie. Alors, retour donc sur cette privatisation, l'anniversaire de cette privatisation. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs un cadeau d'anniversaire à son ami Bouygues que notre président a fait hier. Allez savoir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, et notamment des réactions très passionnées, très intéressantes à l'émission d'hier, qui était constituée d'un long entretien avec l'historien britannique Eric Hobsbawm à l'occasion de la sortie de son livre intitulé « Aux armes citoyens »,« Aux armes historiens », que dis-je, « Aux armes historiens », où il revenait sur les révisionnistes de la Révolution française, ces historiens, et notamment François Furet, qui dans les années 80, et lors de du bicentenaire de la Révolution française, avait fait de cette révolution quelque chose dont on pourrait se passer. TF1, bon anniversaire et vos messages.
Voilà, M. Mermier, j'ai un cri de colère après les vœux du Premier ministre qui nous traite d'exigeants et ceux du Président de la République qui ose nous parler de sa vie privée. On s'en fout. Le 31, j'étais aux urgences de Grenoble sur un brancard dans un couloir avec une suspicion d'hémorragie cérébrale. À côté de moi, une dame branchée à une bouteille d'oxygène dans un fauteuil roulant, plus de brancard. En courant, les médecins passent, il ne faut pas qu'elle reste dans ce fauteuil, il n'y a plus de brancard. Une autre infirmière court après une potence, c'était la dernière, elle a été utilisée. Plus possible, elle en a marre. Va chercher dans un autre service. Une patiente, et pas une cliente, crie au secours, elle souffre d'un cancer des os. Elle n'a pas eu ses médicaments antidouleurs depuis 8h du matin qu'elle est là, il est 15h. Elle a 42 fièvres, il fait chaud, elle a soif. 14 millions de cadeaux à ses amis et le service de santé en faillite. En plus, j'ai peur, j'ai vraiment peur à ce moment-là. J'ai envie de partir, mais je ne peux pas me lever pour partir, je ne peux pas marcher. Nous sommes le 31 décembre 2007 en France, au service d'urgence de Grenoble. Et voilà, M. Sarkozy, j'ai peur de la société que vous me proposez, M. Sarkozy. Mais j'ai peur et en même temps j'ai confiance aux Français. Quand même, on a bien réussi à faire la révolution et à couper la tête au roi de France. Au revoir, M. Mermet.
Bonjour là-bas, si je suis, c'est Hervé de Douarnenez. Plutôt que le discours forcément tendancieux de l'émission d'hier, invitant Eric Hobsbawm, historien de tradition marxiste, je conseille aux auditeurs passionnés de la Révolution française la visite du musée Carnavalet, du cimetière de Picpus et évidemment de la conciergerie qui fut la prison de la terreur. C'est édifiant. Effectivement, et oui, François Furet a raison. Robespierre, Saint-Just, Lénine, Staline, Ho Chi Minh, Pol Pot. Et le prochain, ce sera qui? L'égérie de Daniel Mermet qui distribue le courrier à Neuilly? Je vous laisse méditer sur cette maxime de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Allez, à ciao.
Oui, salut Daniel, Nico, étudiant en troisième année d'histoire à Aix-en-Provence. Premièrement, bah, pour dire que pour quiconque aura eu jamais Jean-Louis Margolin en cours magistral ou même lu Jean-Louis Margolin, entendre Eric Hobsbawm s'exprimer, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Même lire ses livres, c'est plus que nécessaire. Autre chose, il me paraît quand même un petit peu étonnant de faire une émission sur la Révolution française et les commémorations en citant Furet, certes, mais ne pas citer Vauvel, il me semble que vous l'avez un peu oublié. Il serait un peu intéressant, je pense, de ne pas oublier Michel Vauvel, qui est un éminent historien. Sans ça, l'émission était intéressante. Et bonne continuation. Au revoir.
TF1 est déjà la première chaîne de télévision en France. Avec sa privatisation, le paysage audiovisuel va connaître une véritable révolution.
Pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme.
Nous serons une chaîne de culture. Et nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque sur de ce point de vue-là.
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Pénétrez dans cet univers musical. Attention, c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, sans transition, prévention, le gouvernement a lancé une grande campagne de mobilisation contre le cannabis. C'est une bonne chose, mais il y a des drogues plus dures et plus dangereuses, souvenez-vous.
Depuis que Marie vit dans cette maison, elle a vu 2400 fois le journal de Pernod dans le salon. 600 fois combien ça coûte dans la cuisine. 246 fois, il n'y a que la vérité qui compte dans la salle à manger. Il a regardé 45 000 heures de télé-réalité dans la chambre. Au total, Marie a passé 86 765 heures devant TF1.
Guillaume et Vanessa.
Le problème, c'est que Marie a 14 ans.
On paye trop d'impôts et il y a trop d'insécurité dans le pays. Il n'y a que Sarkozy qui peut nous sauver.
Et qu'elle est complètement idiote. Attention, regardez TF1, nuyez aussi à votre entourage.
Du mieux-disant culturel à la part de cerveau disponible, la merveilleuse histoire de TF1 aujourd'hui, TF1 qui célèbre le 20e anniversaire de sa privatisation, ce qui illustre parfaitement notre excursion à travers les années 80. En un quart de siècle, une minorité a imposé ses intérêts économiques au détriment de l'intérêt général, au détriment de millions de femmes, d'hommes et d'enfants, saccagés, humiliés, égarés dans un monde sans suite. Ça s'est fait naturellement grâce à la collaboration des malins qui aujourd'hui occupent les bons trous dans le bon fromage. Pour célébrer cet anniversaire, deux troubles faits, Gilles Balbastre, auteur de Le Journaliste au quotidien, et Pierre Rimbert, auteur de Libération, de Sartre à Rothschild. C'est jusqu'à 16h. Dans là-bas, si j'y suis, Étienne Moujotte, ce sera pour une autre fois.
Thank you.
À TF1, c'est le changement dans la continuité. Hier, la passation de pouvoir entre Hervé Bourges et Francis Bouygues s'est faite avec le sourire. Auparavant, le nouveau PDG avait remis un chèque en béton armé au ministre des Finances, 3 milliards de francs, et la Une avait changé de propriétaire. Cette dernière formalité réglée, Francis Bouygues est venu s'adresser au personnel de TF1. Pas d'inquiétude à avoir, on garde le cap avec la même équipe.
Mes chers amis, il y aura beaucoup de travail à faire dans tous les domaines et à tous les niveaux. TF1 doit rester une chaîne de télévision indépendante au service du plus grand nombre de téléspectateurs. Bien sûr, la rentabilité doit être notre souci. Malgré cet impératif, je tiens à affirmer ce soir que la préoccupation première et de très loin la plus importante est celle de la qualité. Ne vous attendez pas à de profondes modifications dans l'organisation de demain. Il y aura seulement 3 hommes de Bouygues qui viendront aider à la modernisation et à la gestion. J'ai promis et je confirme ce soir qu'il n'y aura pas de licenciement. Mais surtout, je mettrai en place une stratégie qui nous permettra d'engager des jeunes qui apporteront à la chaîne leur dynamisme et leur foi dans l'avenir.
Le 16 avril 1987, il y a 20 ans, on voyait dans la télévision, comme on disait à l'époque, Francis Bouygues lui-même remettre à Édouard Balladur un chèque de 3 milliards de francs, c'est-à-dire 400 millions d'euros d'aujourd'hui, mais c'était une somme absolument considérable. Et pourquoi ça? Eh bien parce que Francis Bouygues venait d'acquérir TF1. C'était la privatisation de TF1, c'est cette privatisation de TF1 qu'on va évoquer avec Gilles Balbastre, journaliste, et Pierre Rimbert, également journaliste. Mais j'aimerais qu'on essaye de brosser le contexte de l'époque, le contexte dans lequel cette privatisation a eu lieu. Pierre Rimbert ?
Alors, la privatisation de TF1, elle s'effectue un an après l'arrivée de la droite au pouvoir, qui gagne les législatives en mars 86, et on a un Premier ministre qui est bien connu, qui est Jacques Chirac déjà, et Jacques Chirac dans sa phase la plus libérale. La télévision, à l'époque, c'est Christine O'Crène qui présente le journal de télé de 20h, c'est Patrick Sébastien, qui est encore là aujourd'hui, c'est Stéphane Collaro, avec le bébé de show, avec les marionnettes qui font leur apparition, lui n'est plus là, et puis c'est la constitution des groupes de communication qui règnent encore aujourd'hui à la radio, comme Énergie, et des gens comme Jacques Séguéla, Serge Julie, Bernard Tapie, les vidéoclips, et puis TF1, à ce moment-là, est dirigé par Hervé Bourges.
La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel.
Alors voilà, François Léotard à l'Assemblée nationale, le 14 mai 1986, c'est très précis, il s'agit d'éloigner l'État de l'information et puis aussi d'ouvrir à un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. 20 ans plus tard, on se demande, l'un et l'autre, Gilles Balbastre qui est un journaliste de télévision et Pierre Rimbert qui est un observateur avisé, est-ce que cette qualité a été au rendez-vous ?
Ça prête quand même à sourire et c'est toujours agréable de retrouver des archives et de repointer ce que des hommes politiques ont pu dire pour tenter de faire avaler aux gens la privatisation de TF1. Et c'est vrai que le gouvernement, l'État, contrôlait énormément les informations, hein, que ça soit sur les chaînes de services publics, TF1 et France 2, avant 81. C'est un fait, le pouvoir gaulliste et giscardien contrôlait l'information aussi bien sur France Inter, là où on est, que...
Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui.
Alors voilà, ça sera...
Aujourd'hui, alors là...
Là, on va On pourra en parler un peu plus tard.
Ça fait rire aujourd'hui. On sait bien qu'il n'y a aucun lien entre le monde politique et
non, surtout par exemple entre les PDG de Radio France qui n'ont aucune affinité politique ou amicale. C'est vrai que ça a énormément changé à ce niveau-là. Enfin, bref, à cette époque en tout cas...
Mais alors à l'époque, ils sont tous dans le même
plumard. Ils sont, voilà. Ça, c'était un fait. C'est un fait, c'est indéniable. Par contre, ce qui est un fait aussi, c'est que la télévision, en tout cas, la production à la télévision était en partie de qualité. Je ne dis pas qu'elle était totalement de qualité, mais elle était en partie de qualité.
Pierre ?
Alors, bon, Léotard dit on veut éloigner l'État de l'information. Et il me semble que sa grande réussite, surtout, ça aurait été de rapprocher l'information de l'argent. Parce que ça, c'est la dimension qui est sous-jacente aux propos de Léotard. Alors effectivement, le monopole public de l'audiovisuel a volé en éclats. Bouygues, Vivendi, Bertelsmann, Lagardère aujourd'hui, quadrille le capital des chaînes des télévisions privées. TF1, qui est la plus puissante chaîne de télévision européenne en termes de part d'audience, n'est plus publique, c'est un fait. Mais ses liens avec l'État dont Léotard voulait éloigner la présence de l'information, ces liens-là n'ont jamais été aussi étroits. D'abord parce que Bouygues doit une partie de son chiffre d'affaires aux commandes publiques, soit à travers son activité de bâtiments et travaux publics, soit à travers son activité de traitement des eaux. Ensuite, parce que les liens entre le patronat de la presse et les politiques sont eux aussi très, très étroits, très forts. Vous savez que Martin Bouygues, donc le fils de Francis qui a signé ce gros chèque à Balladur en 86, Martin Bouygues est à la fois le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, il est le parrain de l'un des fils du ministre de la police, de l'ex-ministre de la police. Et d'ailleurs, Nicolas a confié « Martin, c'est pour moi la définition de l'amitié, de la droiture, de la fidélité. Depuis 25 ans bientôt, nous nous parlons tous les jours. » Et effectivement, tous les jours ou presque, TF1, en retour, parle de Sarkozy. Le syndicat national des journalistes, le CGT, a noté qu'au cours des 264 premiers jours de l'année 2006, Nicolas Sarkozy est apparu 266 fois à la télévision. Alors l'ORTF, on avait les protestataires de 68 avaient coutume de dire « la police vous parle à 20h », eh bien, en 2007, c'est l'ex-ministre de la police vous parle à chaque instant à la télévision.
Ah, nous vous attendions, monsieur Sarkozy.
TF1, ça fait quand même du bien de savoir qu'on a une maison, n'est-ce pas, monsieur Sarkozy ?
Je crois que cette décision est une triste décision. Les Français sont extrêmement attachés, vous savez, à leur télévision. Ils aiment leur télévision. Et en particulier, TF1, c'est la première chaîne qui a marqué l'aventure de la télévision. TF1 a été, est toujours, la grande chaîne nationale populaire de qualité. C'est le bien commun des Français. TF1 appartient non pas au gouvernement, non pas à un parti, non pas à un groupe privé, mais aux Français eux-mêmes. Et vous savez, je crois que beaucoup de gens en France n'accepteront pas que leur bien commun, leur patrimoine commun, qui est en même temps celui des artistes, des créateurs, des techniciens, des journalistes, qui pendant 40 ans ont fabriqué une bonne télévision, peu de personnes accepteront ce bradage à un intérêt privé.
Bradage à un intérêt privé, Jack Lang, le 16 mai 1986, on voit quand même qu'il y a une opposition à cette privatisation. Gilles Balbas.
Oui, enfin, une opposition de circonstances. Parce que, encore une fois, on a quand même évoqué la préparation d'un bouleversement de l'audiovisuel depuis 1982 par les socialistes. C'est sûr qu'ils ne vont pas privatiser une chaîne publique, mais ils vont quand même mettre en place deux chaînes privées, la 5 et TV6, qui facilitent le travail à la droite, qui donne à la possibilité à la droite de privatiser TF1. Une fois que vous avez dérégulé comme ça un secteur, que vous mettez en place de la concurrence, qu'est-ce que vous voulez que fassent les services publics, si ce n'est réagir comme ses concurrents, utiliser les recettes de ses concurrents, se comporter comme ses concurrents, et donc aller de plus en plus vers ses concurrents. Et on aura l'occasion de s'apercevoir que les autres chaînes de services publics vont peu à peu aller vers ce que TF1 a imposé, mais c'est que la 5 et TV6 avaient commencé à imposer dans ce paysage audiovisuel.
This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea.
décidé de proposer au Parlement de privatiser TF1. Ceci dans le cadre d'une loi beaucoup plus vaste qui organisera la liberté de communiquer dans une perspective moderne, mais concurrentielle et européenne. Pourquoi ? La création audiovisuelle, chacun le voit aujourd'hui, stagne dramatiquement dans notre pays. L'argent de la redevance est très mal employé. Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées aux techniques modernes de communication, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Voilà, le génie même de nos créateurs, eh bien, ce sera le génie même de Francis Bouygues, qui, je le rappelle, le 16 avril 1987, symboliquement, se rend propriétaire de TF1. Une réaction sur ce discours de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale, le 15 mai 86, l'un ou l'autre, Pierre,
Humbert, c'est le grand mot, la création, les créateurs. Hein. Il faut être créatif, hein. On devient des individus créatifs, et Chirac, à ce niveau-là, embraye ce qu'a dit Jacques Lang depuis 81, 82, en faisant ces grandes fêtes de la création. On est dans cette époque-là.
J'ajoute que c'est aussi la naissance d'un discours qu'on ne remarque presque plus tant il est omniprésent, mais c'est l'association permanente des mots déclin et repli à la notion de service public, et simultanément, symétriquement, l'association de renaissance et de vitalité
modernité,
qui sont associées au privé. Et bon, organiser la liberté de communiquer dans une perspective moderne, concurrentielle et européenne, on a vraiment l'impression de trouver là les trois piliers de notre système médiatique actuel. Il faut voir que pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on s'aperçoit que ça n'a abouti qu'à l'uniformisation de l'information et à la concentration capitalistique des grands médias.
Alors, toujours réaction à cette privatisation, le 7 juin 1986, place de la République à Paris.
Le public nombreux était au rendez-vous lancé par le petit écran. Un seul mot d'ordre pour tous à ce rassemblement, la télé est à nous. De nombreuses vedettes du petit et du grand écran sont venues dire leur soutien. Les témoignages se succèdent sur le podium. De nombreux chanteurs et groupes musicaux se produiront ainsi jusqu'à minuit. Bizarrement, à part Michel Cardoz, pas de vedette de TF1. Les hommes politiques aussi sont présents. Michel Rocard, Jack Lang, Lionel Jospin, Dumont Badgé, des représentants communistes. L'enjeu de ce soir est important, mais il faudra attendre pour savoir si ceux qui sont venus soutenir le service public seront entendus.
Si cette manifestation obtient un écho auprès du grand public, vous pourrez peut-être voir fleurir dans les jours qui viennent ces badges pour la télé est à nous, qui auraient pu s'appeler aussi, pourquoi pas, touche pas à mon poste.
Alors, touche pas à mon poste, cette manifestation de juin 1986, et bien, je dois vous dire que j'y étais, j'ai même animé une partie de la soirée sur le podium, et il faut bien dire que ça ressemblait à un baroud d'honneur, et ceux que vous avez entendus auparavant, Jack Lang, etc., se tenaient prudemment à l'arrière du podium, mais en aucun cas, ils ne sont avancés devant le public, et cette journaliste a bien raison de dire que la plupart des vedettes du music hall n'avait pas pris le risque de participer à cette fête parce qu'ils avaient compris que c'était foutu et personne ne veut jamais compromettre sa carrière.
Oui, que c'était foutu et surtout que ces vedettes du show business ont excessivement gagné avec cette dérégulation. La prolifération des radios commerciales, des chaînes de télévision, a amplifié leur rémunération. Ces vedettes ont profité, c'est bien peut-être ces rares éléments, ces rares catégories sociales qui ont profité de cette dérégulation, c'est gagner de plus en plus d'argent, comme les sportifs du reste, grâce à ce contexte de dérégulation.
Comment va le monde, monsieur ?
Il tourne, monsieur.
La privatisation de TF1, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je m'en fous. Bien sûr, les berlusconards et les berlusconasses ne m'ont pas convaincu. Bien sûr, je n'attends rien de bon des ogres friqués, ni des vautours phagocytaires qui claquent leur bec crochu au crépuscule des lucarnes à vendre. Mais je n'irai pas pour autant m'intégrer au cortège des cuistres qui versent des larmes de sang et poussent des brames effrayants à l'idée qu'on va dénationaliser Jean-Claude Bourret. Dans les milieux artistico-intellectuels, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on se heurte à ces piliers vermoulus de la culture en pot, qui, hier encore, eussent préféré crever plutôt que de regarder Guy Lux, et qui, désormais, se tiennent prêts à prendre les armes pour que survive la médiocrité. Arrêtez vos jérémiades consternant faux culs qui ne vibraient qu'à Godard et n'exultaient qu'à Lacan. Vous le savez mieux que moi, camarades itronophobes, que la télévision, d'État ou pas, c'est déjà, et ce fut toujours, la victoire de la merde sur la beauté des choses. La télévision, d'État ou pas, c'est déjà, ce fut toujours, pour ceux qui n'aiment pas ça, l'obligation de subir à longueur d'antenne les embrassades poilues des cro-magnons footballistiques qu'on vit naguère s'éclater de rire certains soirs de Bruxelles sur le charnier de leurs supporters éventrés. La télé, d'État ou pas, c'est la loi scélérate des hit-parades et des top 50, c'est-à-dire la loi des requins froids et des débiles anglomaniaques et fossoyeurs de la chanson qui pensent. C'est le droit à l'apothéose pour les ricacazarailles en perlousée gloussante, reconvertis en dondon paramédical et trempeuses de cul dans des bidets de verveine. La télévision, d'État ou pas, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char ou Reiser ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner d'intelligence sont programmés à la minuit, pour que la majorité béate des assujettis sociaux puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un hébété trentenaire figé dans un sourire définitif de hernie ventrale et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. D'État ou pas, la télé, c'est comme la démocratie. C'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Dommage qu'on n'ait jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les chemises noires pour en venir à bout.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
On ne peut pas parler des années 80 sans parler de Bernard Tapie. TF1, 4 mai 1996.
Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation.
Ah oui, on fait un vrai training. Alors je vous ai dit pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Mais... Et finalement, on s'aperçoit qu'avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision.
Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet,
va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre.
Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire.
Bon, alors, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on ait tous complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires.
Tout d'abord, premier,
Robert Maxwell.
Robert Maxwell.
Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand
tu. Je lui dis pas merci.
Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Oui. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Là, tu dis, monsieur Clermont-Tonnerre.
Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. On peut le montrer de la main.
Oui. Jacques Duquesne. Et l'Oiseau.
Et Bernard Tapie.
Voilà, là. Bon, et puis là-dessus, moi, je vous dis, je suis content, en tout cas, oui, le machin, etc. Et Patrick Lelay.
C'est toi qui raccroches.
Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais, chise le sourire.
Le sourire. Puis si on commet une petite erreur l'un ou l'autre,
on continue.
On fait un sourire.
Excusez-moi. Ouais.
Non, c'est juste pas, on continue.
Ouais. Donc, vous êtes prêts là-bas?
On est en train de vous faire des sourires.
Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives?
Le titre. On s'est tous pas d'accord avec moi.
Bravo, Madame Pascal.
Ah, on n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, bah, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendance suive. Bah, tout est super organisé. Il n'y a pas eu quelque chose, un détail laissé au hasard.
On est à la veille d'être propriétaire.
On a tout fait pour ça.
On le savait, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir.
Tu garantis?
Oui. Alors, vous rendez compte, on nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là, c'est fabuleux. Quoi. Hein, et voilà comment on va le faire.
Voilà un document formidable où Bernard Tapie entraîne Francis Bouygues et Patrice Lelay à la présentation, à leur présentation pour obtenir cette fameuse privatisation. Et on voit le silence de Bouygues quand une journaliste très complaisante lui demande ce qu'il fera en matière de convention collective. Et on voit que Bernard Tapie est quand même l'homme de ces années 80.
Il sera aussi ministre de la Ville quelques années plus tard, sous un gouvernement de gauche, sous le gouvernement, je crois, de Michel Rocard. Là encore, on voit le mélange des genres. Comme on a vu Berlusconi s'emparer de la 5 en 85, et on sait qui est Berlusconi maintenant, et qui était réputé homme de gauche, proche des socialistes. Bernard Tapie, qui se mélange avec Bouygues et Lelay, qui les coach, devient ministre quelques années plus tard sous le gouvernement socialiste. Le mélange des genres est total. Encore une fois, ce terrain a été préparé par une déliquescence de la manière de gouverner du Parti Socialiste.
Pierre Hébert.
Oui, alors là, on vient d'entendre la préparation de l'audition. Mais alors, l'audition elle-même va être encore plus savoureuse. Elle se passe le 3 avril 87. Elle est retransmise en direct sur TF1. Et Bouygues, Francis, déclare « Notre grand projet repose sur des idées simples ».«
Notre grand projet repose sur des idées simples ».
Informer, divertir, cultiver.
Informer, divertir, cultiver.
En bref,
servir le téléspectateur.
Alors, Patrick Lelay prend la parole, il exprime ses priorités. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Puis il célèbre la culture, le plaisir de vivre ensemble.
La culture française doit résister, parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble, parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projet.
Et il parle aussi, évidemment, de l'importance de sauvegarder la qualité des programmes. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant cette audition, Catherine Tasca interroge l'équipe de TF1 sur l'existence d'émissions culturelles ambitieuses de haut niveau et donc, pour un temps encore, de faible audience, pas seulement à titre exceptionnel. Ça, c'est l'exigence de la commission. Réponse de l'un des membres de TF1.
Nous serons une chaîne de culture. Nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'apposer notre marque sûr de ce point de vue-là.
Une chaîne de culture. Et puis Bernard Tapie enfonce le clou. Francis Bouygues a une vertu devenue rare.
Il a une vertu devenue rare. Il dit ce qu'il fait et il fait tout ce qu'il dit.
Quand on est une grande chaîne de télévision comme La Une...
Quand on est la grande chaîne de télévision qu'est La Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Oublier l'audimat. Alors on a entendu la préparation de l'audition, des propos tenus à l'audition, et là, changement de ton, parce que un mois après, Bouygues a remporté La Une, et les promesses de Bouygues, de Lelay, de Tapie, n'engagent, un peu comme celles de Pasqua, que ceux qui y croient. Une fois qu'il a remporté la mise, Bouygues explique sur Europe 1, et là, vous allez voir, le ton a un peu changé, « Nous sommes privés, nous sommes évidemment une chaîne commerciale, il y a des choses que nous ne souhaitons pas faire, par exemple, du culturel, du politique, des émissions éducatives. » Et de son côté, Lelay a tout à fait perdu son goût pour la culture. Dans les colonnes de Libération, lui écrit « On ne vit plus qu'avec les chiffres de l'audimat. Il faut avoir le respect du goût du téléspectateur, ne pas le forcer à regarder ce qu'il n'a pas envie de voir. Passer une émission culturelle sur une chaîne commerciale à 20h30, c'est un crime économique. »
Alors, Pierre Rimbert, quel était l'intérêt de Bouygues là-dedans? Parce que, bon, c'est Francis Bouygues ne manque pas de travail, il est à la tête d'une entreprise considérable, qui a des marchés partout dans le monde. Quel était l'intérêt du groupe Bouygues d'acquérir TF1?
Mais d'abord, TF1, c'était, l'ont expliqué Pierre Péan et Christophe Nix dans leur enquête sur TF1, un pouvoir. TF1, ça n'est pas seulement une chaîne, c'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir d'influence économique. Et un pouvoir politique, pour une raison très simple, c'est que lorsque on transforme la liberté de la presse audiovisuelle en une propriété privée, on s'achète du même coup le pouvoir d'influencer les politiques. Et dans leur bouquin, justement, TF1, un pouvoir, Péan et Nick citent un proche de Bouygues, un de ses collaborateurs qui a préféré garder l'anonymat, et on va voir pourquoi. Ce collaborateur explique à propos de Francis Bouygues. Francis avait le plus grand mépris pour les politiques qu'il savait pouvoir acheter. Avec une chaîne de télévision, il comprend qu'il n'aura plus à les solliciter, mais que ce sont eux qui viendront manger dans sa main. Dès cette époque, il avait imaginé comment quelques minutes accordées au JT de 20h à des leaders du tiers-monde aideraient son groupe à obtenir des marchés. En rentrant du festival de Cannes en 87, peu après qu'il eut gagné, Francis m'a confié « Je me rends compte que TF1 c'est fantastique. Ce n'est pas moi qui suis demandeur, c'est eux qui le deviennent. » Il venait de constater l'inversion du rapport de force. Fin de citation. Et c'est un moment décisif, la victoire de Bouygues dans l'attribution de TF1. Et à vrai dire, plus que la victoire de Bouygues, la privatisation de TF1. Ça entérine un basculement du rapport de force entre les politiques et les médias. Auparavant, les politiques dominaient l'univers des médias. Ils pouvaient légiférer dessus, ils pouvaient au moins tenter de réguler cet univers. Après la privatisation de TF1, ou plutôt après les années 80, c'est les médias qui peuvent mettre en scène, qui conquiert le monopole de la mise en scène de la vie politique. Et peu à peu, les politiques ont pris peur du pouvoir qu'ils ont octroyé aux médias, au point de ne plus oser essayer de le contrôler. J'ajoute une chose, c'est que Bouygues a tellement bien compris ce système des intérêts secondaires qu'en 1994, il crée LCI. Alors c'est 8 ans après la privatisation, 7 ans, et Bouygues dit « Cette chaîne sera un instrument de pouvoir. Pourquoi » Pourquoi? Eh bien parce que sur LCI, il va faire défiler tous les gens qui se pensent importants, mais qui n'ont pas l'occasion de passer sur TF1.
Parce oui, bien sûr.
Sur TF1, on ne peut pas faire passer tout le monde. Et Bouygues avait tout à fait compris ça. Tous les seconds couteaux de la politique, du journalisme, de l'économie vont défiler sur LCI. Et Bouygues, d'ailleurs, qui était malin comme un singe, avait veillé à confier des émissions à tous les éditorialistes les plus infatués de la scène parisienne. Luc Ferry, Jacques Julliard, Claude Imbert, Edoui Plenel ont tous hérité d'une émission de télé sur Bouygues, et du coup, ont cessé, tant bien qu'ils voulaient le faire, de critiquer TF1 et LCI. Et le directeur d'antenne de LCI, qui s'appelait Dutoit, nous avait dit 20 à 25 000 Français se considèrent comme des acteurs de premier plan de la vie politique, économique, religieuse, intellectuelle, scientifique. Si nous ouvrons une chaîne d'information, on se fera 25 000 copains. Et ça n'a pas manqué, ça a été 25 000 obligés sur lesquels Bouygues savait pouvoir compter pour ne pas desservir ses intérêts.
Le 15 avril, ils seront 7 000 invités à Port-Marly, chez Francis Bouygues, dans une fête absolument formidable, d'un enthousiasme formidable, comme dit, qui l'on sait. Et tout se passe bien, on est content. Le numéro 1 mondial du béton a acquis cette télévision publique. Tout le monde est content, il y aura quand même là aussi des petits bémols. Dans l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse à l'époque, un certain Viaz, un dessinateur qui s'appelle Viaz, il y avait des dessinateurs qui participaient à cette émission, et Viaz travaille toujours, et c'était le moment du pont de l'île de Ré. Hein, et c'était évidemment Bouygues qui construisait ce pont sur l'île de Ré, et le dessin de Viaz était accompagné de la légende suivante: une maison de maçon. Une maison de maçon, c'était le slogan des maisons Bouygues. Hein. Une maison de maçon, un pont de maçon, une télévision de merde. Et Pollack a refusé de revenir sur ce dessin et sur cette légende, et Pollack a été viré.
Rira bien qui rira, le dernier dit le proverbe. Ce pouvait être la devise de tous les exclus du petit écran qui se sont vus récompensés hier soir lors de la nuit des 7 d'or. Patrice Drevet récompensé dans la catégorie pour la jeunesse avec son mini-mag supprimé sur TF1. Et puis Michel Pollack était bien sûr présent. Il n'a pas manqué d'exercer son humour sur son ancien patron Francis Bouygues au micro de Daniel Messager.
Je trouve cette soirée absolument extraordinaire parce que, à mon avis, c'est le dernier 7 d'or qui est organisé, parce que comme l'année prochaine ça risque d'être TF1, je ne vois pas Monsieur Bouygues recevoir sur sa chaîne cette avalanche de tuiles. C'est pas possible, de toute façon il n'y aura que des fantômes l'année prochaine. Ils vont tous être virés les uns après les autres et il ne restera plus que les feuilletons américains et japonais.
Vous le voyez en quoi le 7 d'or l'année prochaine, s'il y en a encore un?
Ah non, non, mais ça, alors vraiment en béton et en béton armé, comme m'a dit un machinot, parce que, non, d'abord il veut faire des économies, Monsieur Bouygues, sur le personnel, alors le bronze c'est déjà trop cher. Il trouvera sûrement un maçon chez lui pour lui faire ça.
Ouais. Ben.
Il me semble que le son qu'on vient d'entendre montre à quel point le pouvoir du propriétaire est quelque chose qui existe et qui est un vecteur de censure. Presque parfait. Un média qui est possédé par un propriétaire, qu'il soit privé ou public, ne dessert jamais les intérêts de ce propriétaire. Ça, c'est un pouvoir qu'a le propriétaire. Ben, il s'est acheté ce journal, cette chaîne de télévision, donc il en fait en quelque sorte ce qu'il veut, en théorie, sous réserve du respect du cahier des charges qui lui a été imposé. Mais en théorie seulement. Mais la censure qu'évoque Jean-François Kahn, donc qui est la censure directe du propriétaire, elle porte essentiellement sur les intérêts directs du propriétaire. En revanche, le propriétaire ne va pas dicter le contenu de la chaîne TF1. Et là, c'est peut-être une autre censure, un autre type de censure qui prend le relais. C'est la censure par l'audience, par l'audimat, par un autre moyen qui est celui de la concurrence des chaînes entre elles. Et un personnage qui s'appelle Carlo Freccero, qui était l'ancien directeur des programmes de La5, la chaîne donc confiée à Berlusconi, l'avait lui-même reconnu dans les années 80. Il disait: il y a une censure terrible dans les télés commerciales qui interdit toute création dissonante avec la philosophie des grilles des programmes. La télé commerciale devient un spectacle mis en scène pour promouvoir l'écoute du spot publicitaire qui doit être très convaincant pour obliger le spectateur à acheter les marchandises réelles. Le spot a acquis une telle place dans la télé commerciale qu'il a donné naissance à une façon de produire. Pour captiver le plus grand nombre possible de spectateurs pendant le plus longtemps possible, la télé doit demander un effort mental minimum. Et là, oui, il dit ça au début des années 80, c'est du lelay sur le temps ça. De cerveau disponible avant l'heure. 20 ans ou 18 ans avant lelay, on avait déjà ce genre de propos de la part de directeurs de programmation.
Le poids moyen d'une belette, le petit carnivore, est de 70 grammes ou 140 grammes, la belette. Vous prenez votre temps, bien sûr, et nous nous retournons vers nos téléspectateurs. qui veulent jouer avec nous. Tous les gens qui ont gagné 500 euros ou 1000 euros, de toute manière, se sont inscrits.
D'accord.
On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte, le temps que vous téléphoniez, pourquoi pas, pour vous inscrire. Et nous revenons après celle-ci.
Le projet du gouvernement de l'époque, de 1986-87, à travers les propos de François Léotard, c'était d'éloigner l'État de l'information. Effectivement, encore qu'on puisse être un peu sceptique là-dessus, l'État a été éloigné de l'information, ou du moins le poids de l'État sur l'information, du gouvernement sur l'information, se fait de façon différente. Ça avait au moins le mérite d'être clair à l'époque de l'ORTF. Mais l'information en s'éloignant de l'État, c'est évidemment rapprocher des puissants d'argent.
Il y a de beaux restes dans le service public, quand même. Sur France Inter, sur Radio France, sur France 2. On ne peut pas dire que des gens comme Arlette Chabot sont très très éloignés de Nicolas Sarkozy.
Pierre Imbert ?
Je pense que la privatisation de TF1, au fond, ça n'a fait qu'entériner une dérive commerciale que la télévision publique avait engagée depuis quelques années. Rappelons-nous, les émissions Vive la crise, c'est sur France 2, c'est pas sur TF1 privatisé, c'est sur France 2 public. L'émission Ambition de Bernard Tapie, c'est sur TF1 public. Donc il y avait déjà eu un mouvement de spectacularisation de la télévision publique que cette privatisation n'a fait que entériner. En ce sens, c'est un aboutissement, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un point de départ. Car une fois TF1 privatisé, ce qui était jusqu'alors juste une dérive va devenir la norme. La norme de l'audimat qui va assigner pour seul rôle à la télévision de canaliser des spectateurs vers des spots publicitaires. Et c'est la fameuse phrase de Lelay, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Et ce qui est intéressant dans la privatisation de TF1, c'est qu'elle va en quelque sorte interdire tout retour en arrière. La chaîne privée, elle impose aux autres chaînes de se battre sur son terrain. Parce que TF1, c'est 33% de part d'audience, mais c'est près de 55% du marché publicitaire de toute la télé. Toutes les sommes qui sont investies en publicité à la télé, eh bien une majorité de ces sommes revient à TF1. En 2005, TF1 a diffusé 814 heures de publicité. Si vous les mettez bout à bout, ça fait 34 jours de publicité diffusée en continu. Et c'est pour ça que TF1 a la capacité de fixer le marché de la publicité à la télé, de fixer la norme de la production télévisée. Et c'est la locomotive, France 2, France 3, et même une chaîne comme la 5e, etc., sont les wagons. Elle est devant. Elle impose la manière de faire de la télévision. Et pour changer la télévision, il paraît évident qu'il faut commencer par arrêter cette locomotive. S'il existait une volonté politique de changer les choses pourraient être changées. Mais bon, pour le moment, la volonté politique, c'est plutôt de les conserver en l'état. Au début de l'année 2007, le gouvernement a offert un petit cadeau d'adieu aux chaînes privées TF1, M6 et Canal+, puisqu'elle a adopté le principe d'une reconduction simplifiée de l'autorisation d'émettre de TF1 jusqu'en 2022.
Voilà le travail. C'était une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à Pierre Rimbert et Gilles Balbastre, ainsi qu'à Jennifer Guyot et à Françoise d'Artois de Lina. Je rappelle un bouquin de Pierre Rimbert, Libération, de Sartre à Rothschild, aux éditions Raison d'Agir. Et puis Gilles Balbastre, aux éditions Agone, journaliste précaire, journaliste au quotidien. Et puis à lire également sur ces histoires de médias, le plan B à ne pas manquer. Et aussi, on l'a cité, il faut le rappeler, TF1, un pouvoir de Christophe Nick et Pierre Péan aux éditions Fayard. D'autre part, ne manquez pas ce soir le concert de Supernatural, l'orchestra à 20h30 au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, dans le 9e arrondissement de Paris. Ça vous est recommandé à la fois par Antoine Chao et Charlotte Berry. C'est tout dire. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Cédric Lalanne. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Berry. Et c'est Christophe Humbert qui attend patiemment vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.